Chroniques antarctiques. Voyage à la mer de Ross. Je vous emmène naviguer au cœur d'une expédition polaire le long des côtes de l'Antarctique.
On l'a rien tout devant derrière. On l'a tout devant derrière. Tout à fait, on l'a tout devant derrière.
Ok.
Chères auditrices et auditeurs de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud, bonjour à vous. Aujourd'hui, nous sommes fin février. La fin de l'été austral approche et donc nous avons quitté le continent antarctique en route vers Hobart, en Tasmanie, notre port de retour. Dans la dernière chronique, nous étions arrivés devant le glacier Mertz en Terre Adélie. Et je vous avais raconté l'historique de ce glacier et son importance dans le fonctionnement de l'océan austral. Mathieu Lys, un des scientifiques du bord, va maintenant nous expliquer ce qu'apportent les observations satellitaires à notre compréhension des glaciers antarctiques.
Eh bien, salut Hervé, donc Mathieu Lys, moi je suis responsable de l'innovation pour Airbus Defence and Space. Je suis basé à Toulouse. Je suis ravi d'être sur ce bateau pour la troisième fois, donc Persévérance, c'est la troisième expé que j'ai l'opportunité de réaliser. La première, c'était au Spitzberg en 2024, ensuite au Groenland 2025, et là, l'Antarctique.
C'est la première fois que tu viens en Antarctique ?
C'est la première fois que je viens en Antarctique. On a posé le pied à Cap Crozier, j'ai pris mon pied en photo, là, parce que c'est un moment très fort. Donc qu'est-ce que je fais à bord et puis quels sont les sujets qu'on développe sur Persévérance? Alors en fait, moi j'essaye de développer toute partie spatiale de l'expédition. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors premièrement, la partie spatiale, elle est intéressante pour faire un suivi des glaciers. Alors aujourd'hui, on était à proximité du glacier Mertz. Et donc en partenariat avec le CNRS, on a monté un partenariat donc avec Airbus pour prendre des images satellites. Donc c'est des satellites qui s'appellent Pléiade Néo. Et qui prennent des images à très très forte résolution, donc très très précises, 30 cm de résolution. Des glaciers, donc en particulier Mertz et Ninis, on a défini une programmation sur ces deux glaciers. Pourquoi c'est intéressant? Parce que l'idée c'est de faire un modèle 3D en fait, de ces glaciers pour comprendre comment ils évoluent au fil du temps. Et ces deux glaciers, ils ont une importance vraiment particulière, parce que si jamais ils étaient amenés à disparaître, s'ils fondaient complètement, ça ferait une élévation du niveau des mers au niveau mondial de 1 mètre. Donc, c'est énorme. Donc c'est pour ça que les scientifiques s'y intéressent depuis plus de 10 ans. Et donc ils ont besoin d'images, aussi des images satellites, pour comprendre les mécanismes de fonte d'évolution de ces glaciers.
Quand tu parles d'images satellites, c'est dans le spectre optique, c'est pas du radar, hein ?
Non, là on parle vraiment d'images optiques, donc c'est dans le visible, et 30 cm de résolution. Donc c'est vraiment ce qui se fait de mieux au monde, et donc ça permet d'avoir un modèle assez précis. Il y a un autre sujet qu'on traite avec des images satellites, c'est le suivi des manchots antarctiques. Et donc ça, c'est vraiment génial parce que pour la première fois, on a pu utiliser des images satellites, donc les mêmes satellites hein, d'Airbus, pour estimer les populations de manchots, notamment les manchots Adélie. Et donc on arrive effectivement à voir les colonies avec la précision qu'on a. On a pu contribuer à l'inventaire des manchots donc en complétant les images de terrain qui sont prises par notre ornithologue Yves. Les observations aussi qui sont faites avec des drones. Et donc l'avantage des images satellites, c'est la couverture. Parce que tu peux avoir du coup une grande couverture. Là, on prend des images qui font à peu près 14 km sur 14 km. Et puis surtout, c'est des zones qui sont difficiles d'accès ici. Donc ça permet aussi d'avoir de la revisite, de faire un inventaire régulièrement. Par exemple, on pourrait faire ça chaque année. On est en train d'en discuter là, parce que c'était un beau succès là, de faire cette expérimentation.
Mais la résolution du satellite est suffisante pour compter les manchots qui sont posés sur la glace ou sur la plage?
C'est ça, on arrive à faire une estimation, alors avec des algorithmes qui utilisent différents types de données, par exemple les surfaces de guano, hein, donc, qui sont laissées par les manchots, permettent d'avoir une bonne estimation, une bonne corrélation avec la population de manchots. Et on arrive à voir même les nids, hein, la résolution permet de voir les nids de manchots par satellite, donc ça c'est vraiment très précis. Et donc l'avantage effectivement c'est d'avoir une régularité ensuite des images pour avoir des informations fréquemment. Et on a fait donc cet inventaire, donc contribué à l'inventaire à Cap Crozier, ensuite à Cap Adare et à Sabrina Islands, donc c'est vraiment des endroits qui sont très très peu accessibles.
Information pour les auditeurs, c'est des satellites qui volent à 800 ou 1000
km. 620 km, et tu arrives à voir des détails de 30 cm.
Hallucinant.
Ouais, donc ça c'est vraiment intéressant ce résultat. Alors on parlait des glaciers avant, donc on a aussi fait un partenariat avec un institut de référence dans l'étude des glaciers, c'est le British Antarctic Survey. Donc là on réalise des prélèvements d'eau de mer. Donc on a fait au total 40 prélèvements sur différents sites pour mesurer en fait la concentration en oxygène dissous. On mesure des isotopes, voilà, qui sont dissous dans l'eau de mer. Et alors ça paraît tout bête comme ça, on collecte des seaux, hein, c'est tout bête, mais ça peut avoir vraiment une importance. On mesure en fait, ces isotopes de l'oxygène, ils viennent, en fait, ils sont amenés par les glaciers qui fondent, qui vèlent, qui sont amenés dans l'océan. Et donc en mesurant ces isotopes, cette concentration, on peut en déduire l'interaction entre les glaciers et l'océan et mieux anticiper l'impact du réchauffement climatique sur les glaciers. Voilà, ça c'est un sujet important. Et puis on parlait de spatial juste avant, donc on a aussi été amené à réaliser des expérimentations, donc là pour l'ISAE Superhero et pour le Space Flight Institute, qui est une start-up qui développe des formations pour des astronautes. Et donc là, on a utilisé des cobayes à bord, des passagers qui étaient partants pour faire des tests. Et donc là, on évalue en fait des formations pour les astronautes. Donc on simule des tâches de rendez-vous, donc un docking, un rendez-vous entre une navette spatiale et la station spatiale internationale. Et on voit au fil du temps, au fil de l'expédition, comment d'un point de vue psychologique, d'un point de vue pratique, les gens se comportent. Et également comment ils s'auto-évaluent au fil de l'expédition. Et ça, donc c'est intéressant pour développer des futures formations pour les astronautes, mais aussi pour étudier d'un point de vue psychologique, cognitif, voilà, comment on évolue au fil d'une expédition. En fait, il y a beaucoup de similitudes entre les milieux polaires et le milieu spatial. Ce sont des milieux qui sont isolés, où on ne peut utiliser que les communications par satellite pour communiquer. Et puis avec des environnements extrêmes, hein, en termes de vent, de température, bien sûr, d'état de mer. Donc voilà, il y a quand même pas mal de similitudes entre les milieux polaires et le spatial, et c'est pour ça que c'est intéressant de tester ce genre de protocole. Voilà, et puis enfin, pour terminer, il y a un dernier sujet d'étude qui est aussi lié avec le domaine spatial. En fait, on teste un système d'assistance médicale qui est autonome, c'est-à-dire qui peut même fonctionner sans avoir besoin de connectivité satellite. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça peut être utilisé par des expéditions où il n'y a pas forcément de médecins à bord, ou même dans des zones de déserts médicaux où on ne trouve pas de médecins. Et donc là, l'idée de ce système, en fait, c'est d'avoir un boîtier, hein, qui fonctionne en Wi-Fi, sur lequel on connecte un téléphone. On lance une application qui nous donne des réponses si jamais on est amené à avoir des situations médicales d'urgence. On n'a pas de médecin à bord, bon, voilà, on consulte l'application, on l'interroge et on a une réponse qui permet de prendre des premières mesures d'urgence si besoin. Et donc ça peut être intéressant aussi, potentiellement, pour des futures missions spatiales où il n'y aura pas forcément de médecins à bord.
Oui, je comprends, parce que dans la marine, nous, on a un service de télémédecine qui est à Toulouse, à Purpan. Alors, il faut une communication. Dans le temps, c'était par radio, maintenant, c'est par satellite. Et en gros, il y a un médecin qui fait un diagnostic à distance, en fonction de ce qu'on lui raconte, et surtout en fonction des instruments qu'on branche, genre un électrocardiogramme, et il va avoir le profil direct. Alors que dans ton cas, il n'y a pas de médecin à distance. C'est le boîtier qui est en intelligence artificielle et qui va répondre directement aux questions. C'est bien ça ?
Oui, alors tu peux aussi avoir un médecin à distance, parce que le boîtier, il peut être connecté par satellite. Ça, c'est une option. Mais ça fonctionne aussi sans connexion satellite. Donc si vraiment il n'y a rien, si on est dans une zone blanche en termes de couverture, on peut quand même utiliser le système, et c'est ça aussi son intérêt, c'est d'être vraiment autonome. Donc il fonctionne avec des algorithmes d'IA, une intelligence artificielle. Et donc l'idée, c'est de pouvoir fournir un support vraiment si on est en situation d'urgence, quoi, sans aucune aide médicale à bord.
Donc Mathieu a fait à plusieurs reprises le parallèle entre la vie des humains en milieu polaire et dans les stations spatiales. D'où l'intérêt de ces tests comportementaux sur notre équipe de cobayes, nous, à bord de Perseverance. La caractéristique commune à ces deux milieux, le polaire et le spatial, c'est que ce sont des milieux isolés, avec des conditions extrêmes, a priori hostiles à la vie normale des êtres humains. À titre d'exemple, je vais vous décrire rapidement la vie sur les deux bases antarctiques françaises que je connais. La base de Dumont-d'Urville est une base côtière située sur l'île des Pétrels, très proche du continent de la Terre Adélie, par 66 degrés 40 minutes de latitude sud, donc juste sur le cercle polaire. En conséquence, la nuit polaire dure seulement quelques jours autour du solstice d'hiver, le 21 juin. Mais le soleil reste très bas sur l'horizon pendant tout l'hiver, où donc les températures moyennes tournent autour de moins 20 degrés. Mais le plus dur côté météo à Dumont-d'Urville, ce sont les vents catabatiques qui déboulent de la calotte continentale. Ils sont fréquents, très froids et peuvent atteindre 250 km/h, record à 320 km/h. Dans ces conditions, tout le monde est confiné dans les bâtiments, interdiction de sortir, car sinon on serait emporté immédiatement par les bourrasques et la sensation thermique descend en dessous de moins 50. Entre novembre et mars, quand la banquise se fragilise, le navire Astrolabe peut assurer le ravitaillement de la base et la relève des équipes. Il effectue 3 ou 4 rotations depuis Hobart en Tasmanie. En conséquence, les hivernants, qui sont généralement 25, sont totalement isolés pendant 7 à 8 mois, car l'Astrolabe en hiver ne peut pas venir, ce n'est pas un vrai brise-glace, et les avions ne peuvent plus atterrir sur la calotte polaire au-dessus de Dumont-d'Urville comme ils peuvent le faire en été par bonnes conditions. Pour une campagne d'été, j'étais arrivé une fois à DDU par la première rotation de l'Astrolabe en décembre, donc après une belle bagarre dans la banquise, et c'était le premier contact avec le monde extérieur après 8 mois de solitude pour les 25 hivernants qui semblaient débarquer de la Lune, quoi. Et ces hivernants restent en moyenne 14 mois sur la base pour assurer les passations avec l'équipe de relève. Bon, la base Concordia, elle, est située à 1100 km de DDU à l'intérieur du continent sur la calotte glaciaire à 3200 mètres d'altitude. Côté pression atmosphérique, c'est à peu près l'équivalent de l'altitude du Mont Blanc à cause du vortex polaire qui diminue la pression atmosphérique. Donc la sensation d'hypoxie, c'est-à-dire de manque d'oxygène, est immédiate quand on y arrive en avion. Il faut plusieurs jours pour s'y habituer, et la combinaison du froid et de l'hypoxie peuvent rendre les efforts physiques très pénibles. À 75 degrés de latitude sud, pour Concordia donc, la nuit polaire, c'est-à-dire la période où le soleil n'apparaît jamais au-dessus de l'horizon, dure environ 3 mois. Pendant l'hiver, donc, d'avril à septembre, les températures moyennes tournent autour de moins 60 degrés, avec un record à moins 85. Et les beaux jours d'été, bon, c'est plutôt du moins 30. Conséquence, pendant les mois d'hiver, travailler dehors signifie être habillé en cosmonaute avec combinaison étanche chauffante. Et ces conditions extrêmes font que l'environnement de Concordia est un désert de glace infinie, un univers purement minéral, sans aucune vie animale, ni végétale, ni même bactérienne, à l'exception des humains bien sûr, qui ont colonisé les lieux depuis quelques dizaines d'années seulement. Le ravitaillement de Concordia est assuré par des convois en chenillettes au départ de Dumont-d'Urville, dès que l'Astrolabe a pu livrer nourriture et combustible, donc de novembre à mars. Les 1200 km de glaciers sont parcourus en 12 jours environ, et les équipes de personnel technique et scientifique arrivent et repartent en avion pendant l'été, depuis DDU ou depuis la base italienne de Mario Zucchelli en mer de Ross. Donc, comme à DDU, les hivernants, qui sont au nombre de 12 à Concordia, vont rester en isolement total de mars à novembre, sans aucune possibilité d'assistance extérieure. Mais dans les deux cas, DDU et Concordia, il y a un médecin dans chaque équipe d'hivernants. Mais la grosse différence entre Concordia et DDU, c'est que le climat à DDU, en dehors des périodes de vent catabatique évidemment, permet de vivre facilement en extérieur, bien couvert, pour le boulot ou le repos, les balades, les matchs de foot sur la banquise, etc. Alors qu'à Concordia, surtout l'hiver par moins 70 degrés, sortir est une vraie mission, seulement justifiée par les tâches indispensables à accomplir. Et donc les hivernants vivent la plupart du temps confinés dans les deux grandes tours qui abritent les lieux de vie, les laboratoires et les espaces techniques. La similitude avec la vie des astronautes dans l'ISS paraît donc évidente pour Concordia. Et les programmes de suivi médico-psychologique dont Mathieu nous a parlé tout à l'heure sont vraiment pleinement justifiés pour les hivernants de Concordia et aussi de DDE. Comparativement, à bord de Perseverance, nous faisons de la croisière grand confort. Même si la traversée retour dans l'océan austral vers la Tasmanie va s'avérer plutôt sportive. Nous en reparlerons dans la prochaine chronique. Donc, à bientôt, chers auditeurs. Chroniques antarctiques. Voyage à la mer de Ross. Je vous emmène naviguer au cœur d'une expédition polaire le long des côtes de l'Antarctique.
On l'a rien tout devant derrière. Voilà, tout devant derrière. Tout est fait pour l'a tout devant derrière. Ok.
Ah, là, j'ai l'air de...
Ouais, Sergio, c'est clair, c'est ça ?